Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de RNG. Vous êtes sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
C'est ça.
Bah, je suis aujourd'hui en compagnie de Swill.
Salut.
Voilà, et donc moi-même pour vous présenter donc cet épisode qui va parler des protagonistes dans le jeu vidéo.
C'est ça, ouais, la figure du protagoniste, le héros, le personnage qu'on joue.
C'est ça, ouais. Bah, on s'est dit qu'on voulait faire un épisode là après le dernier, c'était quoi ? C'est sur Returnal.
C'est ça.
On avait fait donc un sujet assez spécifique. On s'est dit autant partir sur un sujet qui rebrasse un peu plus large. Et quitte à parler un peu à tout le monde, autant parler des personnages qu'on incarne, en fait. Ceux qui vont vraiment être les leaders ou les leaders de l'aventure que vous allez parcourir. Et je pense que pour commencer le sujet, parce que RNG est totalement prophétique et en fait, c'est nous qui donnons le là à l'industrie, j'ai appris avant qu'on recorde, ça c'est hyper dramatique, BAFTA a fait une liste de leurs 20 protagonistes de jeux vidéo préférés.
Donc c'est les British Academy, Ford de machin, chouette, machin.
Ouais.
Qui sont assez respectés dans le game, un
oui,
peu,
non.
quand même.
C'est une belle cérémonie.
Et qui, du coup, apparemment, ils auraient réuni à peu près 4000, je sais pas quoi, 4000 personnes, je sais pas c'est quoi, qui auraient, en fait, fait le top 20 des plus grands protagonistes, qu'ils appellent most iconiques, donc les plus iconiques, les plus
D'accord.
cultes personnages de jeux vidéo de tous les temps. Et du coup, je connaissais la liste, Ulysse va la découvrir en même temps que vous, je pense, peut-être. Donc, est-ce que je commence la liste ou pas pour,
Moi, j'aimerais bien qu'on commence là-dessus se donner un petit élan et...
Ensuite, partir sur l'argumentaire. Ouais. Ok. Du coup, à la 20e place, on a Nathan Drake du
D'accord.
jeu Uncharted. Je vais juste les name drop comme ça parce que...
Ouais,
on va revenir après dessus. À la 19e place, on a Ellie de The Last of Us. À la 18e place, on a Kazuma Kiryu du jeu Yakuza. Quand même osé. À la 17e place... On a Astarion de Baldur's Gate 3 qui a gagné l'acteur qui joue ce personnage dont j'ai oublié le nom a gagné le Game Award de la meilleure prestation.
La meilleure performance, ouais, masculine.
Voilà. À la 16e place, on a Cloud de Final Fantasy VII. 15e place, Crash du jeu Crash Bandicoot. Donc on a déjà quand même trois personnages de chez Naughty Dog quand même, c'est pas mal. À la 14e place, on a Solid Snake de Metal Gear Solid. 13e place, Steve, le personnage de Minecraft qu'on incarne. À la 12e place, on a Pikachu de Pokémon.
Ok.
À la 11e place, on a Arthur Morgan du jeu Red Dead Redemption 2. À la 10e place, alors là, ok, on a Shadow Heart du jeu Baldur's Gate 3.
Ok.
D'accord. C'est vraiment ok. À la 9e place, on retrouve notre cher Kratos de chez God of War, bien sûr. À la 8e place, on a le Master Chief de Halo. À la 7e place, on a mon petit chouchou Link de The Legend okay. of Zelda qui n'est que 7e. À la 6e place, on a Pac-Man.
Ok.
5e place, on rentre dans le top 5. Hein.
Ouais, top 5.
On a Sackboy du jeu Little Big Planet. Attends, c'est pas finir.
Pardon.
On a Sackboy.
Ok.
Ok, c'est ok, d'accord. À la 4e place, moi, je comprends pas pourquoi il est pas sur le podium. On a Sonic du jeu Sonic the Hedgehog,
oui.
le fameux hérisson bleu. À la 3e place, on a Agent 47 de Hitman.
Okay.
À la 2e place,
vas-y.
On a Mario de Super Mario Bros.
Deuxième, ok.
Et
donc
du coup, c'est qui le premier, Ulysse ?
Lara Croft, du coup, je dirais.
Exactement,
c'est
Lara Croft, bien joué,
okay,
de Tomb Raider. Et du coup, cette liste, elle a fait pas mal discuter, parce que c'est là au fait où je me suis rendu compte que la manière dont on conçoit un personnage culte peut paraître assez... C'est pas forcément...
La même pour tout le monde,
la même
dire.
Pour tout le monde, parce que là, on a quand même un top qui quand même... Bon, Mario top 2, ok, on retrouve Sonic, Link, Pac-Man, bon ça, ok, Kratos, j'entends. Après, j'ai un peu des... Par exemple, Pikachu... Moi, j'ai un peu de mal, parce qu'en fait, la licence Pokémon, c'est une licence qui...
En soi, dépasse le jeu vidéo,
dépasse
tu veux
le
dire.
Jeu vidéo est connu, voilà, c'est des jeux de cartes. Et le personnage de Pikachu en lui-même, il est surtout très connu grâce à l'animé Pokémon.
Oui.
C'est le fidèle compagnon de Sacha dans l'animé. Et mais sinon, dans le jeu vidéo, Pikachu, c'est juste un Pokémon comme les autres.
Oui, il
a pas
ça, il fait même pas partie du roster de base.
Non, non, il est vraiment juste, c'est juste un Pokémon dans les autres, c'est juste que dans l'anime, il a une certaine importance. Donc, mais après, voilà, on retrouve des personnages comme Shadowheart. Et après, Shadowheart, qui est un personnage important dans le jeu Baldur's Gate 3. Mm. Dans le jeu Baldur's Gate 3, un peu comme Astarion, c'est un compagnon, c'est un personnage qu'on va rencontrer, qui va faire partie de notre troupe d'aventuriers, de ce que je sais. Mm. Mais Astarion et genre Baldur's Gate 3, c'est quand même le personnage le plus, j'ai l'impression, le plus culte, le plus emblématique, oui, que les gens le plus reconnu. Et Shadowheart, qui est genre top 10, je sais pas si c'est parce que tout le monde a eu un crush sur elle, où il y a eu énormément de cosplay d'elle sur TikTok, je sais pas pourquoi les gens ont voté Shadowheart, mais ok. Et puis Sackboy 5ème.
Sackboy, ça sort un peu d'un cul, hein, désolé.
Sackboy, ça sort de nulle part. Genre, c'est un peu, ouais, une mascotte de la PS3.
Oui, mais malgré tout, tu sais, Little Big Planet, ça a pas un impact culturel spécifique. Genre,
non, je suis d'accord.
Le dernier Little Big Planet qui est sorti sur PS5, tu vois, les gens ont plus parlé d'Astro Playroom que de Little Big Planet. Personne se dit, oh, vous avez vu le Mario de la PS5.
Non, je suis d'accord que c'est quand même un personnage qu'on reconnaît, mais là, on est sur une liste, genre, de. Ouais, les 20 persos. Moi, Sackboy, je le mets pas dans les 20 premiers, même pas, je pense, dans les 30-40.
Ah non,
mais le mettre cinquième, genre devant Link, Master Chief, Pac-Man, Kratos, Crash, tu vois, genre. Ok, mais.
Non, ça passe. Enfin, là, pour le coup, c'est une question de classement. C'est que je trouve qu'il est assez. Tu vois, son design est assez iconique, ça, d'accord. Genre, le fait que ce soit une peluche et tout, un peu marron, rigolote. Mais passer devant Pac-Man ou Link, en fait, c'est des personnages où tu te dis, Link, je peux comprendre parce que je me dis, il y a des gens, tu leur parles, ils vont dire, ouais, c'est Zelda.
Ouais,
ils
voilà.
Vont peut-être c'est... pas avoir le truc de se dire, ah, mais oui, c'est
ouais,
pas Link.
La Master non, Sword, et la voilà. Triforce, je vois.
Mais.
C'est Zelda, ils vont l'appeler Zelda.
Voilà,
du coup.
Exactement. Du coup, c'est ça que je voulais, là où je voulais revenir. Mais Pac-Man, ça reste quelque chose qui parle à énormément de monde, au-delà même de la salle d'arcade. C'est vu un peu comme Mario, ça représente le jeu vidéo en tant que médium. Et le fait de pas mettre Mario en premier. Je pense qu'il y a une discussion à avoir là-dessus, mais c'est. Parce que moi, je le mettrais en premier
ouais, Mario,
sans hésiter. Je pense que tout le monde le reconnaît, c'est genre le plombier bleu et rouge, enfin voilà quoi, c'est impossible de pas le reconnaître. Là où Lara Croft, pour moi, le seul point qui fait qu'elle est aussi haute, entre guillemets, parce que j'aurais pu la mettre en deuxième, par exemple, moi je pense personnellement, c'est que, en soi, dans le cinéma, il y a quelques années, une liste de votants, et je ne sais plus si c'était Hollywood Reporter ou. Je sens que je vais dire des bêtises niveau source, donc je vérifierai ça plus tard. Mais en tout cas, donc il y a eu une liste des personnages les plus iconiques du cinéma. Donc c'était quand même très centré autour des États-Unis évidemment et Hollywood, mais donc le premier ça a été Indiana Jones. Donc je me dis si on fait ce parallèle là que Indiana Jones soit premier dans l'audiovisuel et que bah dans le vidéo ça soit donc Lara Croft, ça reste cohérent sur une académie qui peut-être tu vois tourne un peu sur ses enfin regarde un peu son nombril quoi, on va dire.
Ouais. Non mais je pense que là ça va nous permettre de voilà, qu'on vous a montré un peu tous ces personnages, parce que pour la majorité, vous les connaissez. Ça va nous permettre, du coup, de faire un peu la transition vers la figure du protagoniste dans le JV. Pourquoi, dans le JV, elle est aussi... C'est-à-dire que le héros peut tellement être différent à travers les jeux vidéo, en fait.
Il y a aussi tellement de points de vue, c'est un peu ça. C'est genre, je sais qu'avant cet épisode-là, tu me disais, du coup, faut pas qu'on reparle de la narration. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà de la narration et donc de l'environnement ou de ce qui va traverser l'histoire et les péripéties qui vont suivre nos personnages, c'est aussi comment est-ce qu'on va les vivre et à travers quels yeux. Et moi, je trouve que c'est un peu ce qui est intéressant, c'est que finalement, ouais, bah, si on joue un personnage à la première personne, un personnage de la Sega Call of Duty ou d'un autre FPS, genre, par exemple le Duke de Duke Nukem, on va clairement pas avoir le même rapport que si on joue justement à la troisième personne en TPS, Lara Croft, Nathan Drake, etc. Et donc, je trouve que c'est aussi cette question-là de la perspective de à quelle échelle on est impliqué dans le scénario. Et moi, je sais que par exemple, avant, en tout cas, j'avais beaucoup plus tendance à préférer les TPS. J'aimais bien le fait d'avoir une identification très précise du personnage, de voir à quoi il ressemble, sa psychologie, qu'est-ce qui va le traverser. Et j'avais pas besoin de me mettre à sa place, enfin, d'être dans ses bottes et de me dire je me mélange et je me fonds.
Pourtant, t'es un fan de Bioshock.
Pourtant, je suis un fan de Bioshock. Et c'est pour ça que, en effet, après, j'ai grandi, j'ai changé de fusil d'épaule. Mais pendant très longtemps, j'étais vraiment plus en mode ah, les TPS, parce que les GTA-like aussi, c'est des personnages que je trouvais très longs, bien écrits. Que ça me passionnait de suivre ce qu'il faisait et j'avais du mal à avoir autant d'empathie pour un personnage si je ne voyais pas vraiment son corps ou s'il n'était pas matériel en fait.
C'est ça. Mais non, je suis d'accord avec toi, c'est tout qui est marrant avec le. Moi, ce qui représente un peu le personnage le plus. Que je considérais le plus jeu vidéo-esque.
Ouais.
Excusez-moi pour ce terme un peu gras. pour les personnages vraiment à la première personne, c'est le Doomslayer en fait.
Ah oui.
Le Doomslayer, Doom, voilà, c'est une saga absolument iconique des années 90 qui a qui techniquement a inventé tellement de choses, a tellement fait avancer l'industrie.
Le fait sur PC,
voilà,
ça,
c'est Doom quoi. Donc, mais c'est le côté de oui, c'était un jeu à, c'est un jeu à la première personne. Encore aujourd'hui, avec Doom Eternal, le Doom 2016 qui était un reboot de la licence, on est encore en vue à la première personne. Et il y a toujours eu ce côté que le Doom Slayer, il a pas spécialement de... Il est là, il bute des trucs.
Non, il a pas spécialement de personnalité.
Même si, voilà, les derniers opus ont quand même essayé de l'engager un petit peu plus de vis-à-vis de l'histoire et tout. Moi, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'il représente vraiment le personnage que moi, j'appelle... Enfin, pas vraiment que j'appelle, mais le... C'est-à-dire, c'est être un type de personnage, de héros, de protagoniste, où on va pas vraiment se poser la question de ce qu'on est. En fait, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que le Doomslayer est comme pas mal d'autres personnages, je pense à par exemple au Chevalier sans âme, c'est-à-dire le héros qu'on joue dans le jeu Hollow Knight.
Ouais.
Il y a plein d'autres jeux comme ça où en fait, quand on va jouer au jeu, on va pas remettre en question, on va pas se poser la question qu'est-ce que je fais ici, qui je suis en fait. On va se laisser un peu guider et c'est un peu, je pense, de base le c'est-à-dire, c'est souvent des jeux où la narration n'est pas spécialement importante ou pas au premier plan. Je pense à des Dark Souls ou des Elden Ring, ce genre de choses où on ne va pas spécialement essayer de comprendre pourquoi on est là et c'est limite pas si important que ça à l'expérience. Ouais. Et je pense que c'est aussi, comme on a parlé sur l'épisode de la narration avec le cinéma, les parallèles au cinéma qui prennent de plus en plus d'importance et tout dans l'industrie. Aujourd'hui on a peut-être un peu plus d'attente, peut-être on est beaucoup plus habitué à des expériences qui mettent du coup en avant la narration et qui du coup on a des personnages avec du coup
plus de caractérisation,
de caractérisation.
Ok, bah c'est en plus c'est amusant que tu parles justement du Doom Slayer parce que moi justement l'archétype dont tu parles, je pensais justement au fait que ça rejoint malgré tout une problématique je pense qu'il y a dans le jeu vidéo qui reste très présente, c'est que le personnage soit caractérisé ou non, il y a ce côté hyper important. Là, je saute une étape, mais celui de un peu l'aspect iconique du personnage. Et c'est pour moi genre l'aspect visuel et représentation visuelle de à quoi il ressemble. Et je pense que par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le Doomslayer, mais en fait, c'est la même chose avec le héros de Wolfenstein. C'est quand tu joues du coup aux deux, t'as je crois l'icône de leur tête qui apparaît en bas de l'écran pour voir le niveau de vie et
commencer à devenir blessé. Il y a des petites animations faciales en plus.
Ça, il y a des animations selon les dégâts que tu subis. Et ce que je trouve amusant, c'est que voilà, le design du Doomslayer, alors que c'est une coquille vide pour que le joueur se dise juste « je suis là, je dois tuer des monstres », etc., des diablotins, il a quand même un design qui est hyper marquant. Genre avec son casque vert, il est reconnaissable. Le personnage de Wolfenstein, bon, c'est juste un petit blond un peu musclé, mais ouais, voilà.
C'est ça. C'est un Johnny Bravo.
Et ce que je trouve rigolo, c'est quoi du coup, les deux nouvelles versions donc, de Wolfenstein et de Doom, elles ont essayé de le caractériser un petit peu plus. Là où Doom, ils épousent quand même vachement l'aspect de c'est pas très important, on pouvait passer à côté, mais le lore est présent. Wolfenstein, il y a un vrai travail d'écriture sur, comment il s'appelle, Blazkowicz. Ouais, et vraiment, dans les deux jeux, c'est très très bien fait. Je trouve que pour le coup, c'est des belles, on va dire, des nouvelles versions, des réadaptations en fait, du jeu de base. Mais je trouve ça amusant de me dire qu'en effet, à la base, le design entre guillemets, celui qu'on voyait même sur la jaquette, ça jouait déjà dans l'importance de se dire ah, tel personnage il est reconnaissable au premier coup d'œil. Et je pense que c'est un peu ça avec Mario aussi, c'est que personne se dit ah, Mario il est il est timide, il est si
qu'est-ce qu'il a Mario aujourd'hui,
il est un peu rêvé, c'est quoi la psychologie de Mario?
non mais
donc tu vois, il y a ce truc où je me dis bon. Attends deux secondes,
ne quittez pas, vous êtes toujours sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
Ah bon.
Vas-y.
Tu sais, je me dis, ouais, c'est ce truc où on n'a pas forcément besoin d'avoir une caractérisation qui est aussi forte sur des psychologies très très fines pour juste profiter d'un jeu vidéo, vu que l'impératif du jeu, c'est pas la narration en fait, la progression du jeu, c'est juste d'avancer et d'en voir la fin, et donc il faut un objectif. Mais l'objectif, c'est même pas forcément un bail narratif d'une résolution capitale sur des éléments de bien et de mal. Parfois, ça peut juste récupérer 10 éléments, récupérer 10 feuilles dans la forêt pour survivre. C'est pas vraiment une histoire, c'est vraiment juste des éléments de game design qui sont posés là pour faire une progression et pour amener
et meubler,
un joueur à meubler et tout simplement à jouer en fait, à avoir un objectif. Genre littéralement que t'es de ouais, c'est quoi le sens d'être là, pourquoi je joue. Mais du coup voilà, genre je pense qu'il y a des, il y a des jeux où c'est pas forcément important qu'il y ait une caractérisation forte.
Forcément ça va être des jeux qui ont du coup une qui vont mettre un peu plus d'importance sur la narration. Pour pas aller chercher bien loin, on va prendre un jeu que, dont je vous ai parlé dans la narration dans les jeux vidéo, qui est le jeu The Walking Dead, l'adaptation spin-off de chez Telltale, qui est un jeu qui est du coup un jeu narratif, et avec le personnage de Lee, je parle vraiment saison 1, le personnage de Lee que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait moi j'aime beaucoup comment il fonctionne, c'est-à-dire qu'il y aura un côté un peu on va tomber sur Lee. Et comme on l'a dit dans l'épisode sur la narration, on sait pas trop d'où il vient, on sait juste que quand on le trouve, il est dans une voiture de police, donc peut-être qu'il a effectué un crime, on se dit peut-être qu'il va en prison, on sait pas, mais son passé est un peu flou, mais il y a un côté de « Ah, peut-être que son passé était pas forcément... » Il y a un côté un peu de rédemption, on sait pas forcément ce qui s'est passé, mais ça sonnait pas très bon, on va dire.
Ouais.
Et ce qui se passe quand du coup il va rencontrer l'élément déclencheur, c'est évidemment l'apocalypse zombie, mais aussi la rencontre avec la gamine Clementine. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, Lee et le joueur vont faire un peu une sorte de pacte, une sorte de marché, c'est-à-dire, ok, il y a le joueur, il a moi là qui joue, j'ai mes intentions, Lee, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais c'est celui que je joue. Mais c'est un truc qu'on est d'accord entre Lee et le joueur, c'est qu'il faut sauver Clementine. Et du coup, c'est pour ça que Lee, je le trouve que c'est un personnage absolument exceptionnel et ultra bien construit. Et c'est pour moi un très très bon protagoniste de jeux vidéo. C'est parce qu'il va tout simplement avoir une forme de volonté propre, ses propres convictions. Mais derrière, il y a un croisement qui se fait du coup à travers le personnage de Clementine. Et du coup, en plus avec la fin, voilà. Sans, je vais pas vous spoiler parce qu'on essaye d'être no spoil ici chez RNG, surtout vis-à-vis de Walking Dead. La fin est quand même assez importante. Donc voilà, pour moi, voilà, Lee, ça, si toi, je sais pas, t'as peut-être un autre personnage en tête, il y a quelque chose qui te...
Moi, ce que je trouve intéressant avec Lee, justement, c'est un peu ce que tu disais là, vis-à-vis un peu peut-être de sa volonté propre, c'est l'idée qu'en fait, autant que joueur, on a donc plusieurs choix possibles vis-à-vis des choix de dialogue, en fait, des différents parcours qui sont possibles et des décisions que vous allez prendre qui vont influer sur l'histoire. Mais en même temps, ouais, il y a un peu cette espèce de ligne où peu importe ce qui va se passer, il est tellement construit en tant que personnage et en tant que personnalité, qu'il y a des fois, il peut y avoir entre guillemets des espèces de frictions entre toi en tant que joueur, ta personnalité, ta persona et la persona du personnage de Lee en lui-même.
Mmh.
Et ce que je trouve ça hyper intéressant parce que ça arrive quand même très peu, vu qu'en général, vous avez le même objectif qui est de préserver et de protéger Clementine. Mais vous pouvez par exemple avoir des solutions différentes. Genre par exemple, on peut se dire que peut-être voler une caisse d'une famille comme ça, isolée en pleine forêt, qui a plein de courses et de nourriture, ça peut être une bonne solution pour protéger donc Clementine. Ou on peut aussi se dire que c'est une mauvaise chose, on lui apprend là une façon de survivre qui est un peu dégueulasse, peut-être qu'il faut lui apprendre des valeurs plus justes. Il y a tout ce rapport-là un peu dans le jeu que j'aime bien, où parfois le jeu prend juste ses décisions, il y a une illusion qui y seront, mais là où ça devrait m'agacer, ça le fait pas parce que le personnage est tellement bien écrit qu'en fait, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de sursaut du réel de « bah oui, non mais à la fin, il a ce rapport-là à elle ». Et non, j'ai pas forcément d'autres exemples là comme ça.
Bah pour moi, West, c'est un... Moi je voulais parler de Joël.
Ah oui, si, putain.
En termes de je fais mes décisions moi-même, ça c'est quand même le GOAT.
C'est vrai. Bah après, justement, ce qui est intéressant avec The Last of Us et Joël, c'est que pour moi, ça amène aussi une dynamique de personnage qui est celle du sidekick en fait dans le jeu vidéo. Parce que je trouve que c'est une dynamique qui est vachement présente juste en termes de game design et de mécanique. Par exemple, c'est que dans The Walking Dead, la dynamique c'est Clementine et Lee. Donc Lee qui va protéger Clementine, figure paternelle. The Last of Us, c'est Joël et Ellie. Mais Ellie, elle a une utilité un peu de gameplay. Il y a cette idée de, elle peut vous trouver des munitions rapidement, elle peut genre, je crois faire un peu de diversion, choses comme ça, mais c'est très très léger.
Quand il y a un zombie sur vous, elle peut le planter, ce genre
et,
de choses.
Et du coup, il y a cette idée-là de dire, ok, comment est-ce que son IA, on doit la gérer pour aussi la rendre du coup crédible quand elle va se balader. Et je crois que dans le premier, par exemple, elle est juste invisible aux ennemis en général, ce qui fait que ça peut casser un peu l'immersion. Mais j'aime bien ce rapport parce que, par exemple, dans Bioshock Infinite, c'est un truc qui avait été beaucoup travaillé, l'idée de se dire qu'on a l'impression que donc Elizabeth, qui accompagne là pour le coup Booker, c'est encore une fois en plus Troy Baker qui double Booker des 8 et donc Joel. Donc il y a vraiment cette espèce de parallèle entre les deux à faire. Mais Elizabeth, ouais, elle vous donne des munitions, elle vous permet d'ouvrir des portails pour avoir donc des dynamiques de gameplay un peu différentes en termes de shooting, tout simplement. Et je trouve ça amusant de me dire qu'en fait, avoir une dynamique avec plusieurs personnages, parfois même une équipe, comme dans un Dragon's Dogma ou dans des JRPG, ça va forcément de multiplier le gameplay et les façons de jouer. Donc, finalement, quand on parle de protagoniste, il y a un peu aussi l'idée de est-ce qu'on est tout seul ou accompagné, et si on est accompagné, comment on gère ça? Parce que on se rend bien compte que dans les jeux d'horreur, par exemple, typiquement, on n'aime pas être accompagné. Genre, il y a un truc où on peut pas avoir un personnage qui vous accompagne, sinon, bah, est-ce que ça continue encore à faire peur, etc. Mais peut-être qu'il y a un jeu vidéo dont on a parlé dans le premier épisode qui, justement, est assez cool parce qu'il a réussi à faire ça, si tu en parlais très bien.
Resident Evil 4, on va faire vite. Bah, Ashley, ça qui est marrant, c'est qu'en plus, Ashley, c'était un personnage avant le remake qui avait une très mauvaise réputation. Les joueurs adoraient détester Ashley. Parce qu'en gros, voilà, je vous la refais rapide. Léon arrive en Espagne pour sauver Ashley. Voilà, c'est un peu sa princesse biche. Voilà. Il doit aller la sauver. Et du coup, quand on la récupère, ça devient un peu un jeu de... faut escorter Ashley jusqu'à... pour qu'elle soit sauve, tout simplement. Et ouais, quand on est dans un jeu d'horreur où on n'a pas beaucoup de munitions, avoir quelqu'un qui nous crie dans les oreilles, c'est vraiment... Et parce qu'en plus, son IA était pas incroyable lors du... Enfin, avant le remake. Et le remake, je trouve, a vraiment réussi à...
À mieux doser ça.
À mieux doser le bail, elle est un peu moins bavarde. Il y a un côté de... On peut lui indiquer ce qu'il faut faire, genre baisse-toi, reste là-bas, tire-toi s'il y a trop d'ennemis, tout ça et tout. Donc, RE4, super exemple.
Ouais, si, c'est un bon exemple. Et en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est du coup, c'est que ça permet presque de rebondir là, du coup, sur un autre sujet encore, qui est un peu celui de la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Je me dis, c'est pas le sujet principal de l'épisode, mais je trouve ça amusant de dire que, ouais, genre, si on parle d'Ashley... Il y a ce côté de, ouais, elle est quand même un peu bavarde. Genre, en plus, elle est là en jupe avec son décolleté assez plongeant. Et donc, il y avait tout ce rapport-là de, OK, en termes de représentation, est-ce que c'est pas un peu stigmatisant? Est-ce que c'est assez juste et tout? Moi, je trouve qu'en effet, ça a un peu vieilli là-dessus.
Ah, c'est un peu la demoiselle en détresse.
C'est un peu la demoiselle en détresse, telle qu'elle est présentée de base. Et puis, c'est vrai que c'est un jeu japonais. Et je trouve que c'est le pays où il y a le plus de représentations très clivantes. C'est qu'ils ont un rapport au corps des femmes dans l'art en général, qui est que soit... elle peut être sexualisée de façon genre très j'ai le mot en anglais mais empowering, genre l'idée de lui donner de la force et que justement elle est à l'aise dans son corps et c'est très bien. Des fois ça va être de la sexualisation pour aussi vendre des jeux, et des fois ça va être vraiment juste un côté très bête et méchant de oui bon c'est une femme, elle est un peu inférieure et elle est totalement genre soit plus bête soit plus concon ou ouais très passive. Et en fait c'est ça qui est assez dingue, c'est que tu prends des jeux comme Bayonetta, enfin je trouve que par exemple le personnage est iconique as fuck, enfin moi j'ai pas joué à la licence mais elle m'attire énormément et de tous les retours que j'ai eu c'est très très
Nier aussi Automata.
Nier Automata c'est un jeu où voilà on joue un android qui en soi elle se balade pareil hein, dans une jupe avec une petite culotte et tout qu'on voit pas nécessairement mais il y a des gens qui forcément jouent avec la caméra et ce rapport là à sa féminité alors que c'est un robot, en fait ça participe beaucoup au message du jeu sur l'humanité en fait qu'ils ont vis-à-vis de leur corps qui est que bah ils sont totalement asexués. Et en fait, du coup, on pourrait dire, ah, est-ce qu'il y a une forme de male gaze là-dessus, un regard masculin pour un peu exciter le joueur? Moi, je trouve pas, parce que je trouve que c'est tellement profond en termes de réflexion ou autre que ça serait contre-productif, et en tout cas, ça serait passé à côté du message du jeu qui est vraiment sur un rapport assez humaniste et où finalement, enfin, même les personnages masculins sont un poil, enfin, tout le monde est très dans ce rapport-là dénudé au corps.
Surtout, le Japon nous a donné la première héroïne iconique, pour reprendre ce mot, qui est bah, Samus.
Samus, ouais. Samus, un jeu de Metroid. Ouais.
C'est une licence qui a plus de 30 ans, qui date de 87, je crois, sur Famicom, donc c'était l'équivalent de la NES au Japon. Et Samus, ce qui était marrant, c'est que du coup, on joue Samus Aran, on joue une chasseuse de primes, et le truc, c'est qu'on est en armure tout au long du jeu, et c'était un peu la surprise, c'est que tout au long du jeu, on joue en armure, et je pense que, comme pas mal de gens à l'époque, on devait se dire, voilà, sous cette armure, doit y avoir un mec grave stylé, tout ça et tout, stock et tout. Et à la fin, quand le jeu se termine et que du coup Samus retire son armure, on voit une femme blonde sortir de nulle part. Et aujourd'hui, Samus, bah, c'est déjà Metroid en plus d'être une licence.
Elle
n'a
pas été citée dans le top 20 à BAFTA. Hein.
Non.
La vache.
Il y en a plein qui n'ont pas été cités. Hein.
Parce que, ouais, mais parce que Samus, je faisais Metroid Prime le remaster qui est sorti l'année dernière sur Switch. Et je me disais à quel point c'est. Déjà, le jeu est absolument incroyable. Genre, c'est vraiment. Je crois que c'est un des plus grands jeux jamais faits. Et j'avais joué à Metroid Dread juste avant, qui était très sympa. Mais là, le fait est, ouais, donc dans le Metroid Prime, de voir le reflet du visage.
On est en FPS, du coup, on est vraiment vu à la première personne.
En FPS, donc d'être vraiment dans son casque avec le HUD, donc qui reprend son interface à elle, et d'avoir en effet donc son reflet qui pop dès qu'il y a une explosion ou quelque chose d'hyper luminescent. Enfin, c'est une façon hyper simple de caractériser que, en effet, on joue une femme, mais de façon genre très implicite et avec une armure qui est genre tellement stylée, enfin elle est tellement badass.
À ce jour, le chara-design
elle est pas
du tout
là pour le coup. Enfin c'est une des plus belles tenues je trouve de jeux vidéo tout court. Genre vraiment l'armure de Samus elle est absolument incroyable.
Non hell yeah. Et puis juste si BAFTA a mis en numéro 1 Lara Croft, je reviens un peu là-dessus. C'est que Lara Croft ça reste, c'est bon là je vais pas faire l'historique mais pareil c'est une saga qui va avoir à peu près 25 ans.
Ouais, c'est 96, non? Ou 80... Ouais, plus, c'est 90, plus,
je crois, parce que le premier sur PlayStation 1.
Ouais, PlayStation 1, ouais.
PlayStation 1, tout ça et tout, donc ça va être 95, 96. Okay. Et ce qui est intéressant, du coup, avec Lara Croft, c'est que j'ai adoré comment c'est un personnage qui a su se réinventer aussi.
Oui.
C'est que moi, j'aime beaucoup le passage Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld sur GameCube à l'époque et sur PS2 aussi, qui n'étaient pas des jeux incroyables, voilà, ils n'étaient pas ouf, mais ça a été mes premiers jeux Tomb Raider, dont j'ai un excellent souvenir. Et là, oui, le personnage de Lara Croft était très important et tout, l'histoire était aussi un élément important, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que le meilleur opus Tomb Raider, c'est le reboot en 2013, si je dis pas
2012-2013.
2012-2013, donc sur PlayStation 3, Xbox, qui a lancé ensuite une trilogie. Et moi, je trouve en termes de revisiter le personnage, on en a parlé un peu dans la narration dans le jeu vidéo vis-à-vis du personnage de Kratos, mais pour moi, s'il n'y a pas ce reboot-là de Tomb Raider en 2013, je ne sais même pas si on a un Kratos et on a un God of War en 2016.
Ah non, on n'a vraiment pas un Kratos, enfin, on n'a pas un God of War 2018 sans le Tomb Raider de 2012.
Exactement.
Je crois même que c'est Cory Barlog qui en parlait lui-même en disant que parce qu'il avait travaillé un peu dessus, apparemment, ou il avait été consultant, peu importe, je ne sais plus à quelle implication il était, mais en tout cas, il a vu le projet. Et il a dit que quand il avait vu justement avec El Maestra, ils ont réussi à renouveler un personnage qui était assez iconique. Enfin, Lara Croft, il y a ce truc-là où, OK, elle a une poitrine énorme et c'est une archéologue endurcie. Là, ils arrivent à repartir avec un nouveau design, du coup, en reprenant, OK, elle est brune, mais beaucoup plus jeune, avec des formes tout à fait naturelles, en fait, en étant une femme très réaliste, avec un style de jeu aussi qui est très mature. Le ton de l'épisode était très...
Du coup, on va agresser un peu plus le joueur, ouais, c'est que j'aime bien. C'est qu'en fait, entre-temps, il y a eu Uncharted qui est passé par là. On sent que ça a eu un impact avec le personnage de Nathan Drake qui est... C'est Lara Croft en mec, là, Nathan Drake. Hein. C'est Indiana Jones, mais... Il y a eu un peu une sorte de rivalité entre Nathan Drake et Lara Croft. En attendant, Amazon... Ils ont acheté la licence. Peut-être que ça cuisine un quintuple A à la Ubisoft. Et on va avoir le droit à un nouveau Tomb Raider. J'ai hâte, là, sur Unreal Engine 5. Who knows? Donc ouais.
Mais bon, malheureusement, on va commencer à être un peu à court de temps. Du coup, je pense que ça peut être sympa là de parler de nos deux recommandations.
Si yes.
On veut parler de jeux vidéo avec des héros qui nous ont marqués. Du coup, si j'ouvre le bal, moi je sais qu'un jeu, si on parle vraiment de personnages, mais du coup, je me dis toute la galerie de personnages est absolument brillante. C'est Beyond Good and Evil, sorti en 2005 chez Ubisoft. Je pense que c'est un de mes jeux préférés déjà. Et le personnage de Jade, il est absolument incroyable. C'est une photographe qui évolue sur une planète un petit peu bizarre.
Ubisoft.
Et vraiment, c'est tellement bien. Le gameplay est cool. Elle sait se battre avec genre des bâtons, plein de choses et tout. Donc elle fait une sorte de kung-fu. En tout cas, elle pratique des arts martiaux. Tout en étant photographe, donc elle a ce côté un peu artistique. Et du coup, dans le jeu, on prend des photos de ce qui nous entoure. Et toute la VF du jeu. Il y en a qui vont peut-être me dire que ça a vieilli, mais c'est un 10 sur 10.
Comme Ubisoft le faisait à l'époque. Hein, ouais, franchement, les Rayman 3, tout ça, là, les VF d'Ubisoft en ce temps-là, c'était goté. À moi ou tu...
Vas-y, ouais.
Du coup, moi, j'en ai deux. Bon, le premier, Final Fantasy XVI,
okay.
Sorti l'année dernière. Je sais que c'est très récent. En plus, bon, il n'est pas ultra accessible, parce qu'en ce moment, bon, il est que sur PlayStation 5, tout ça. Mais Final Fantasy XVI, je le mets ici, parce que je trouve que c'est un bon moyen de montrer que Final Fantasy XVI, c'est un jeu qui a pas mal de défauts. À la fin, j'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment une super expérience de l'année dernière. Mais je trouve que l'une de ses meilleures qualités, c'est son héros Clive Rosefield, où du coup on joue, on est dans un univers médiéval, fantasy, où en fait il y a ce qu'on appelle une sorte d'hégémonie des cristaux, où le monde est régi par en fait la monnaie, en fait l'or noir de ce monde-là, le pétrole, c'était en fait la magie qui émane des cristaux, et donc le monde est divisé en pas mal de royaumes, et chacun a son propre cristaux. Et donc géopolitique, guerre, il y a un côté très Game of Thrones, un peu à très très grande échelle, avec des grandes batailles et ce genre de choses. Et dans toutes ces choses-là, il y a ce personnage-là, Clive Rosefield, prestation absolument incroyable. Je pense que si le mec qui a joué Astarion dans Baldur's Gate n'avait pas été là, ça aurait été Clive qui l'aurait gagné, parce que sa prestation est absolument dingue, avec un côté vraiment spectaculaire et très shonen, où vraiment ça... Il y a un côté, ouais, comme on a dit, très grandiose et grandiloquent dans cette épopée qui est FF16. Donc, juste pour Clive, faites FF16. C'est trop bien.
Non, je suis d'accord là-dessus. Et pour finir, moi, du coup, le dernier jeu que je me suis mis en recommandation, c'est Hellblade. Parce qu'en plus, déjà, le 2 arrive dans un mois, à peu près. Et que le premier, donc, c'est sorti en 2017 ou 2016, en tout cas 2016-2017. Et bah, en fait, c'est Senua, qui est du coup une sorte de viking, enfin de femme comme ça, dans un temps très moyenâgeux, très, pas médiéval, mais vraiment dans ces zones-là. Et elle est, le jeu est tellement empreint de son point de vue et de son expérience, vu qu'en fait, c'est une femme qui souffre de troubles...
Schizophrénie.
Voilà, les schizophrènes, ouais. En fait. Et le fait est que le jeu joue avec ça, déjà pour sensibiliser. Là-dessus, il y a eu un gros travail de recherche qui avait été fait. Et en plus, bah, pour du coup simuler l'effet que ça pourrait représenter avec, donc, quand vous jouez au casque, surtout, c'est vraiment une expérience qui est faite pour être jouée au casque. Les voix viennent dans un, de façon bidirectionnelle et vraiment de plein plein de sens différents, et donc ça vient vous agresser pendant des combats ou pendant des séquences d'énigmes. Et je trouve que, genre, on peut pas ne pas penser Hellblade, de ne pas penser à son personnage, vu que l'expérience, elle est tellement serrée et pensée pour, en fait, la, nous mettre dans ses baskets ou dans ses bottes en peau de chamois, j'en sais rien, que c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Et, le, et surtout la fin, je peux pas la spoiler là, mais elle, elle tombe sur une mécanique de gameplay qui est extrêmement liée à la psychologie de Senua. Et en fait, elle vient un peu brosser le joueur dans, le, dans l'inverse du sens du poil. Et c'est sur le côté de, un peu de lâcher prise sur des mécaniques où on aurait envie de se dire non, il faut insister, il faut à tout prix battre l'ennemi ou autre. Il y a toute une espèce de mécanique sur le fait de lâcher prise, sur une forme de pardon ou autre, qui est mise sur une sorte de game over, en fait. Je t'en dis déjà beaucoup trop, mais je trouve que ça marche extrêmement bien et c'est une expérience qui m'a le plus marqué là ces dernières années grâce, bah, à ces doigts. Donc voilà, voilà.
Pour finir, moi, bon, je vais pas aller chercher bien loin, je suis dans les classiques, mais pour moi, si vraiment vous devez genre faire un jeu, vraiment j'ai pensé jeu avec un protagoniste marquant qu'il faut faire, c'est Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan. Je sais que voilà, sur Red Dead 2, il y a plein de débats, on peut dire plein de choses. J'aurais pu choisir Last of Us, j'aurais pu choisir plein de jeux, mais Red Dead Redemption 2, quel pari de dingue, parce que c'est un préquel à Red Dead Redemption 1, avec déjà un héros dont on n'a même pas parlé, mais John Marston. Ça aussi, je sais pas pourquoi il est pas dans la liste de
BAFTA. John Marston, oui.
John Marston, c'est vraiment un king, mais Red Dead 2, c'est un pari de dingue de se dire, ok... Votre héros, il va être dans le jeu, là, celui que vous avez aimé, là, le, votre John Marston, mais vous n'allez pas jouer lui, vous allez jouer un pote à lui, qui s'appelle Arthur Morgan, que vous ne connaissez pas du tout. Vous n'avez jamais entendu parler de ce mec, c'est un random, vraiment, quand on avait vu le premier trailer. Bon, c'est assez, c'est cliché de dire ça, mais ouais, genre, tous ceux qui avaient fait Red Dead 1, quand ils ont vu le trailer de Red Dead 2, quand on a appris qu'on allait jouer Arthur Morgan, on était en mode, mais c'est qui ce random? Je veux pas jouer lui, je veux jouer Arthur Morgan. Je veux jouer John Marston. Et tout le monde, voilà, à la fin de Red Dead 2, est en mode, peut-être que Arthur. Peut-être voilà que Arthur c'est un meilleur perso, mais en vrai bon les deux sont complètement...
Les deux font partie des meilleurs personnages de
tous les temps. Et en vrai voilà, Red Dead 2 c'est un jeu dont j'ai beaucoup parlé dans les open world et je crois même autrefois. Je pense que Arthur Morgan c'est peut-être l'un des persos les mieux écrits que j'ai vu. S'il y a un truc genre vraiment qui est sûr ou vraiment il n'y a pas de débat autour de Red Dead 2, c'est ce personnage là. À quel point il est marquant, à quel point sa rédemption MDR, oui. Sa rédemption est prenante, et à quel point à la fin, bah, je vais pas spoiler, mais à la fin elle est on a rarement fait des fins aussi touchantes,
ouais, bien sûr.
Dans le JV, et je pense que c'est Rockstar à son pic. J'ose espérer que GTA 6 et des personnages, ouais, aussi,
et tout, mais
aussi bien construit qu'Arthur Morgan. On espère,
mais genre, malgré tout, au-delà de l'écriture aussi, c'est vrai que là, je me dis, sur un épisode où on parle vraiment que des protagonistes, il faut aussi faire un petit shout-out, forcément, du coup, bah, la performance, du coup, qui est celle de Roger Clark, et du coup, bah, c'est aussi beaucoup ça, je pense, si on devait un peu avoir un mot de la fin, c'est qu'à la fin, tous ces personnages-là, qu'ils soient mutiques ou non, parfois, c'est que de l'écriture, parfois, c'est que du design, des couleurs, des choix d'armure, parfois, c'est aussi des performances vocales ou du motion capture, donc vraiment de la performance d'acteur. Et donc, pour Red Dead 2, Roger Clark, par exemple, il fait une performance qui est absolument incroyable. Pareil pour Troy Baker dans The Last of Us, etc. Et moi, genre, j'ai envie de citer juste un jeu que tous les deux on aime énormément, parce que je me dis, j'ai pas pu faire vraiment de vraies parenthèses sur vraiment les hommes, femmes dans le jeu vidéo, même si je trouve que c'est un milieu où il y a une représentation assez variée. Il y a quand même de très très belles femmes, je parle en tant que personnages dans le jeu vidéo, vraiment bien écrit. Mais voilà, peut-être que c'est pas encore tout à fait du 50-50, loin de là. Ça progresse, mais il y a un jeu qui, je trouve, permet d'avoir une expérience authentique des deux côtés, que vous jouiez le personnage au masculin ou le personnage au féminin, c'est celui de V dans Cyberpunk 2077.
Putain, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça?
Parce que j'ai repensé au doublage, du coup, qui là, pour le coup, est plus du doublage que de la, que de la performance capture ou du motion capture. Et ouais, le personnage de V, il est, Il est grotesque dans les deux
ah,
versions.
Ah, mais Cyberpunk...
Non,
je sais que voilà, chez RNG Cyberpunk, c'est voilà, on aime beaucoup Cyberpunk ici. Et vie, voilà, en termes de sidekick aussi, il y a pas
bah
mal
oui,
de
bah
trucs.
Oui, Jackie Wells.
Ouais.
Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais on a court de temps, mais oui, Jackie Wells, quel personnage.
Donc ouais, jouer à Cyberpunk, jouer à Red Dead, jouer à Hellblade, Beyond Good and Evil, c'est des jeux qui ont des protagonistes de dingo. Qu'on n'oublie pas, ça qui est aussi ouf avec le jeu vidéo, c'est que, comme on l'a dit, on peut passer 20, 30 heures, parfois 150 heures, et quand on les passe avec un personnage, c'est souvent compliqué de l'oublier, et c'est pour ça qu'on aime bien quand ce personnage-là il est bien écrit, quand l'histoire autour est bien amenée. Donc voilà, c'était RNG, Radio Campus Paris, 93.9 FM. C'était les protagonistes. Ulysse, un dernier mot peut-être?
Ouais, jouer à des jeux vidéo, et il n'y a pas besoin d'avoir des personnages que vous allez façonner de A à Z, du coup en mode RPG super approfondi, etc., pour se dire ah là je m'identifie à quelqu'un.
Exactement. Allez, salut à tous, à la prochaine.
À la prochaine, salut.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.